Chapitre 48, l'Église du reste n'est pas Babylone. Depuis des années, j'enseigne que lorsqu'il s'élève des personnes prétendant avoir de grandes lumières qui tentent de démolir ce que le Seigneur a édifié par l'intermédiaire de ses instruments humains, ces personnes se fourvoient complètement et ne travaillent pas avec le Christ. Ceux qui affirment que les églises adventistes du septième jour sont Babylone ou font partie de Babylone feraient mieux de se taire. Qu'ils réfléchissent bien et considèrent quel est le message qui doit être proclamé de nos jours. Au lieu de collaborer avec les instruments divins pour préparer un peuple capable de subsister au jour du Seigneur, ils se sont rangés avec l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera ainsi jusqu'à la fin, cette Église doit être la lumière qui brille en milieu d'un monde souillé et perverti par le péché. Affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée. Mais elle n'en est pas moins ici-bas l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Le monde est un atelier où, avec la coopération de ses agents divins et humains, Jésus agit dans les cours par sa grâce et sa miséricorde. Les anges sont émerveillés quand ils voient la transformation qui s'opérait dans le caractère de ceux qui s'abandonnent au Seigneur, ils expriment leur joie par d'ineffables chants de louange à Dieu et à l'agneau. Ils voient des êtres qui, par nature, étaient des enfants de colère et qui, ayant passé par la conversion, sont devenus des collaborateurs du Christ dans l'œuvre du salut des âmes. Ils voient des gens qui étaient plongés dans la nuit du péché devenir des lumières au milieu des ténèbres morales de cette génération méchante et perverse. Ils les voient se préparer à souffrir avec leur Seigneur en suivant ses traces pour devenir un jour participants de sa gloire dans les lieux célestes. Dieu a sur la terre une Église qui exalte sa loi foulée aux pieds et qui présente aux hommes l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Église est la dépositaire des richesses infinies de la grâce du Christ, et c'est par elle que sera pleinement manifesté l'amour de Dieu envers un monde qui doit être éclairé de sa gloire. La prière de Jésus, que l'Église soit une comme il est un avec le Père, sera exaucée. Le riche héritage du Saint-Esprit lui sera conféré en flots abondants, grâce auquel le peuple de Dieu sera dans le monde le témoin de la puissance divine pour le salut des hommes. Il n'y a, à l'heure actuelle, qu'une église au monde qui se tienne sur la brèche, relève les fondements antiques et rende le pays habitable. Quiconque attire sur elle l'attention du monde et des autres églises en l'accusant d'être Babylone, travaille de concert avec l'accusateur des frères. Est-il possible que, du milieu de nous, se levant des hommes qui prononcent des paroles perverses et se fassent les porte-paroles de Satan pour répandre dans le monde des accusations contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus? La présentation de la vérité à ceux qui vivent dans les ténèbres de l'erreur ne constitue-t-elle pas un travail suffisant pour satisfaire votre zèle? Économe pourvu de fonds et de talents, en répandant l'erreur vous avez gaspillé les biens du Maître. Le monde entier est rempli de haine contre ceux qui exaltent la loi de Dieu. L'Église fidèle à Jéhovah n'a pas devant elle un conflit ordinaire à livrer. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit saint Paul, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui comprennent ce que cette lutte implique ne se tourneront pas contre l'Église militante, ils lutteront au contraire de toute leur force avec le peuple de Dieu contre les puissances coalisées du mal. Ceux qui se levant pour proclamer un message sous leur propre responsabilité, et qui, tout en se disant éclairés et conduits par Dieu, s'appliquent à détruire une œuvre qu'il a mis des années à édifier, ne font pas sa volonté. Il faut qu'on sache que ces hommes sont du côté du grand séducteur. Ne les croyez pas. Ils se joignent aux ennemis de Dieu et de la vérité. Ils raillent le ministère en disant que c'est un système de prêtrailles. Éloignez-vous de ces gens. N'ayez rien de commun avec leur message, quel que soit l'usage qu'ils fassent des témoignages pour se retrancher derrière eux. Ne les recevez pas, car leur œuvre n'est pas de Dieu. La conséquence de leur travail sera l'incrédulité envers les témoignages et dans la mesure du possible ils démoliront l'ouvre à laquelle je me suis appliqué depuis des années. Ma vie presque entière a été consacrée à cet ouvre, mais souvent ma tâche a été rendue plus lourde par des hommes qui proclamaient un message ne venant pas de Dieu. Ces mauvais ouvriers font choix d'un certain nombre de passages des témoignages qu'ils ont eu soin d'encadrer d'erreurs, afin de faire passer plus facilement leurs faux témoignages. Quand il est prouvé que leur vie est un tissu d'erreurs, les témoignages qu'ils citent à l'appui participent à la même condamnation, et les gens du monde, qui ne savent pas que les témoignages cités sont des extraits de lettres privées, utilisés sans le consentement de l'auteur, présentent ces extraits comme la preuve que mon ouvre n'est pas de Dieu, qu'elle n'est pas la vérité, et qu'elle est le fruit de l'erreur. Ceux qui jettent ainsi le discrédit sur sa cause devront en rendre compte à Dieu. Dieu a une Église possédant un ministère divinement institué. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'ouvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le Seigneur a des instruments de son choix et une Église qui a survécu à la persécution, qui a traversé la lutte et les ténèbres. Jésus aime son Église et s'est donné pour elle. Il la soutiendra, la purifiera, l'ennoblira et l'exaltera, afin qu'elle demeure ferme au milieu de toutes les influences corruptrices du monde. Dieu a désigné des hommes pour veiller avec un soin jaloux, avec vigilance et persévérance, pour que l'Église ne tombe pas dans les piges de Satan, mais qu'elle résiste et fasse connaître la gloire de Dieu à toute la famille humaine. Il y aura toujours une lutte acharnée entre l'Église de Dieu et le monde. Les esprits et les principes s'affronteront comme la vérité avec l'erreur, mais dans la crise qui atteindra sous peu son apogée, des hommes d'expérience seront appelés à remplir la tâche que Dieu leur a confiée, et ils devront veiller sur les âmes comme devant rendre compte. Que tous comprennent ce que j'écris. Les collaborateurs de Dieu ne sont que des instruments entre ses mains. De même, ils ne possédant aucune grâce et aucune sainteté particulière, ce n'est que lorsqu'ils coopèrent avec les influences divines qu'ils sont heureux dans leur activité. Ils ne sont que des vases d'argile dans lesquels Dieu dépose sa vérité. Paul plante et Apollo arrose, mais Dieu seul peut donner l'accroissement. Le Seigneur parle par les instruments de son choix. Qu'aucun homme ni aucune association humaine n'insulte l'Esprit de Dieu en refusant de prêter l'oreille au message de sa parole annoncée par ses messagers. Ceux qui refusent d'écouter les messages de Dieu s'enferment dans les ténèbres. Ils se privent de la bénédiction divine et privent le Sauveur de la gloire qui lui est due, en manquant de respect aux instruments de son choix. Dieu est l'auteur de la paix, non de la confusion. Mais Satan, ennemi vigilant, cherche constamment à semer son ivraie. S'il trouve des personnes qu'il peut enrôler à son service, il leur suggérera de fausses théories, et leur inspirera le plus grand zèle pour soutenir l'erreur. La vérité ne convertit pas seulement, elle purifie celui qui la reçoit. Jésus nous a mis en garde contre les faux docteurs. Dès le début de notre ouvre, on a vu s'élever de temps à autre des hommes qui proclamaient des nouveautés extraordinaires. Mais si ceux qui prétendent croire la vérité allaient consulter les personnes d'expérience, s'ils allaient à la parole de Dieu dans un esprit de soumission et d'humilité, et s'ils examinaient leurs théories à la lumière de la vérité, et avec l'assistance des frères qui ont sondé les Écritures. Si en même temps ils allaient à Dieu pour lui dire, « Est-ce bien là la voie dans laquelle tu veux que je marche ou est-ce un sentier détourné dans lequel Satan s'efforce de me fourvoyer ?» Il recevrait la lumière et échapperait au filet de l'oiseleur. Que tous nos frères et sœurs se défient des personnes qui fixent un temps précis pour le retour du Seigneur ou l'accomplissement de certaines autres promesses. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les faux docteurs peuvent paraître très zélés pour la cause de Dieu, et ils peuvent faire des sacrifices pour faire connaître leur théorie, au monde et à l'Église. Mais du moment qu'ils mêlent l'erreur à la vérité, leur message est trompeur et mènera les âmes dans des sentiers perdus. Il faut leur faire opposition et les réfuter, non parce qu'ils sont des méchants, mais parce qu'ils enseignent une imposture et qu'ils s'efforcent de mettre sur l'imposture le sceau de la vérité. Qu'il est triste de voir des hommes se donner tant de mal pour édifier des théories erronées alors qu'il y a des trésors de vérité qui affermiraient les âmes dans notre sainte foi. Au lieu d'enseigner la vérité, ils laissent leur imagination s'égarer dans des théories nouvelles et étranges et se mettent en conflit avec ceux que Dieu emploie pour amener les âmes à la connaissance de la vérité. Ils méconnaissent tout ce qui a été écrit touchant la nécessité de l'unité de croyance et de sentiment. Ils foulent ainsi aux pieds la prière du Christ, considérant l'unité qu'il demandait à Dieu comme une chose secondaire. Ils pensent qu'il importe peu que les disciples soient un comme le Père et le Fils sont un. Ils s'échappent par la tangente, et, comme Jésus, invitent leurs frères à admirer leur zèle pour le Seigneur. Si ce zèle les portait à travailler comme travaillent leurs frères qui ont supporté la chaleur et le poids du jour. S'ils étaient aussi persévérants qu'eux en face des découragements et des obstacles, ils pourraient être imités, et Dieu les accepterait. Mais on ne peut que condamner ceux qui se croient appelés à proclamer des vérités merveilleuses et qui néanmoins se détournent des instruments que Dieu dirige. C'est ainsi que firent Corée, Dathan et Abiram, et leur exemple nous est cité comme un avertissement. Il ne nous faut pas, suivant leur exemple, accuser et condamner ceux auxquels Dieu a confié la responsabilité de son ouvre. Ceux qui ont dénoncé les adventistes du septième jour comme étant Babylone ont cité les témoignages à l'appui de leur vise. Mais pourquoi n'ont-ils pas cité ce qui est depuis des années le but de mon message, l'unité de l'Église? Pourquoi n'ont-ils pas cité les paroles de l'ange, serrez les rangs, serrez les rangs, serrez les rangs? Pourquoi n'ont-ils pas répété cette exhortation, et énoncé le principe d'après lequel l'union fait la force, et la division, la faiblesse? Ce sont des messages comme ceux de ces hommes qui divisent l'Église et nous couvrent de confusion devant les ennemis de la vérité, et dans lesquels on discerne clairement l'ouvre spécieuse du grand séducteur, qui voudrait empêcher l'Église de parvenir à la perfection dans l'unité. Ces prétendus docteurs marchent à la lumière de leurs étincelles, ne suivant que leur jugement, et encombrant la vérité de fausses théories. Ils repoussent les conseils de leurs frères et ne consultent que leurs sentiments jusqu'à ce que, à la grande satisfaction de Satan, ils perdent leur équilibre mental. Je mets mes frères en garde contre les agissements de Satan sous n'importe quelle forme. Le grand adversaire de Dieu et des hommes exulte en voyant qu'il a réussi à séduire des âmes et à leur faire employer leurs talents et leurs moyens à un but nuisible. Leurs fonds auraient pu être consacrés à l'avancement de la cause de la vérité, au lieu de cela, ils ont été gaspillés à la diffusion d'idées qui n'ont aucun fondement dans la vérité. Je supplie ceux qui professent la foi à la vérité de marcher la main dans la main avec leurs frères. Ne donnez pas au monde l'occasion de nous appeler des extrémistes, et de dire que nous sommes désunis. Que les uns enseignent une chose et les autres une autre. Évitez les dissensions. Que chacun soit sur ses gardes. Réparons la brèche, au lieu de l'agrandir. Prenons bien garde de ne pas dénoncer la seule Église qui réponde à la description du reste, qui garde les commandements de Dieu, possédez la foi de Jésus, et exalte la règle de justice en ces derniers jours. Dieu a un peuple particulier, une Église sur la terre qui n'est inférieure à aucune, mais supérieure à toutes par les moyens dont elle dispose pour enseigner la vérité et revendiquer les droits de la loi de Dieu. Dieu s'est établi des agents qu'il dirige, des hommes qui ont porté le poids et la chaleur du jour, et qui coopèrent avec les instruments célestes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde. Que tous s'unissent à ces instruments choisis de Dieu, et soit trouvé enfin avec ceux qui ont la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus. Dieu a sur la terre une Église formée d'élus qui gardent ses commandements. Il ne dirige pas ici, et là un individu. Il dirige une Église. La vérité possédait une puissance sanctifiante. Mais l'église militante n'est pas l'église triomphante. L'ivraie se trouve mêlée au bon grain. Veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Demandent les serviteurs. Mais le maître leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le bon grain. Le filet de l'évangile ne ramène pas seulement de bons poissons, il en ramène aussi de mauvais, et Dieu seul connaît les siens. Notre devoir personnel est de marcher humblement avec Dieu. Nous ne devons pas chercher quelques messages nouveaux et bizarres. Il ne faut pas prétendre que les élus de Dieu, ceux qui s'efforcent de marcher dans la lumière, constituent Babylone. Babylone enseigne des doctrines pernicieuses, le vin de l'erreur. Ce vin de l'erreur, ce sont de fausses doctrines telles que l'immortalité naturelle de l'âme, les tourments éternels des méchants, la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem, et l'élévation du premier jour de la semaine au-dessus de celui que Dieu a béni et sanctifié. Ces erreurs et d'autres de même nature sont présentées au monde par les différentes églises, et ainsi est accomplie cette déclaration de la parole, « Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Faible, déficiente, ayant constamment besoin d'avertissements et de conseils, l'Église est cependant l'objet de la suprême considération du Christ. Le Sauveur expérimente la grâce sur le corps humain et opère de telles transformations de caractère que les anges en sont émerveillés et expriment leur joie par des chants et des louanges. Ils se réjouissent de ce que les êtres humains puissent être à ce point transformés. Dieu a sur la terre un peuple auquel le ciel tout entier s'intéresse, et qui est l'objet de sa plus tendre sollicitude. Que tous ceux qui lisent ces paroles y prêtent attention. Car c'est au nom de Jésus que je voudrais les mettre sur le cours de chacun. Lorsqu'un homme se levait, soit en dehors de nos rangs, soit du milieu de nous, déclarant que le peuple de Dieu fait partie de Babylone, et que le grand cri appelle les fidèles à en sortir, vous pouvez avoir la certitude qu'il ne porte pas le message de la vérité. Ne le recevez pas. Et ne lui dites pas, « Salut », car Dieu n'a pas parlé par lui. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répéterait à mesure que nous entrerions dans la phase finale de l'ouvre. Chaque vérité qu'il nous a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qu'il a dressé doit être consolidé. Nous ne pouvons pas aujourd'hui détruire les fondements qu'il a établis, ni entrer dans une nouvelle organisation, car ce serait une apostasie, un abandon de la vérité, 1905, Notebook Leffler, The Church, No. 1. Il n'y a pas lieu de douter ni de craindre que l'ouvre n'aille pas au succès. Dieu est à sa tête, et il dirigera toutes choses. S'il est nécessaire de réformer la tête de l'ouvre, il le fera lui-même et il rectifiera ce qui est mauvais. Ayons la foi qu'il conduit dans un port sur le noble vaisseau qui porte le peuple de Dieu, Review and Herald, 20 septembre 1892.